y a des requérants d'asile en Suisse qui obtiennent assez vite leur statut de réfugié. Mais il y a ceux qui ne détiennent pas les preuves nécessaires pour l'obtenir. Ceux-ci sont frappés d'une décision de renvoi et ils doivent quitter la Suisse. C'est le cas de la famille de Valérie Martiniuk, requérant d'asile en Suisse, ressortissant ukrainien et membre de notre rédaction vaudoise de Voix d'Exil. Dès son entrée dans le pays, il est tout de suite tombé dans le carrousel des déménagements, des délivrances et des retraits à plusieurs reprises de son permis N. Il a même demandé la régularisation pour cas de rigueur auprès des autorités cantonales l'année passée, mais sans succès. Voici donc l'histoire semée d'embûches d'une famille de requérants d'asile vivant dans le canton de Vaud. Alors Valérie, depuis combien de temps es-tu en Suisse et comment a débuté ton séjour dans notre pays ?
Cela fait déjà 6 ans et 4 mois que je suis en Suisse. Mais tu sais Omar, j'ai l'impression d'être toujours au début de mon séjour. Comme si je m'étais figé dans le temps en 2014. Un peu comme le protagoniste du film « Un jour sans fin » réalisé par Harold Ramus en 1993. C'est l'histoire d'un présentateur météo sur une chaîne de télévision régionale américaine. Il est obligé de se rendre en reportage le 2 février à l'occasion du jour de la marmotte, une festivité traditionnelle célébrée en Amérique du Nord. Mais une fois son sujet tourné, un blizzard le force à passer la nuit sur place. Par la suite, la même journée recommence encore et encore à chaque fois que son réveil sonne. Le protagoniste semble alors bloqué dans le temps jusqu'à ce qu'il commette des actes qui donnent enfin sens à sa vie. Ce film illustre en quelque sorte mon expérience de l'asile en Suisse.
Ah oui, c'est vrai. Et pourquoi tu te sens comme ça, Valérie ?
Eh bien, on est arrivé en Suisse, à savoir au Tessin, en mars 2014. Et le lendemain, on s'est fait transférer dans un bunker à Biasca, où on a passé 9 jours. C'était notre premier déménagement en Suisse. Je pense que les enfants ont vécu ce séjour comme s'ils étaient dans une colonie de vacances. Au bout de 9 jours successifs, les autorités nous ont assignés au canton de Vaud. Du coup, on s'est déplacé à Sainte-Croix, au Jura nord-vaudois, et on a reçu notre premier permis N. C'est là-bas que les enfants ont commencé à aller à l'école et que nous avons débuté notre apprentissage de la langue française. Et c'est là-bas que nous avons également reçu notre première décision du SEM, qui avait refusé d'entrer en matière et prononcé notre renvoi en Pologne dans le cadre de l'accord de Dublin.
D'accord. C'est donc parce que vous demandiez l'asile en Pologne, c'est bien ça ?
Pas du tout. C'est parce qu'on avait un visa polonais, car on était passé par la Pologne. Donc, selon l'accord de Dublin, on était obligé de demander l'asile en Pologne, voilà. Bon, revenons à l'essentiel. Au bout de 2 mois et demi, les autorités nous ont retiré nos permis N et nous ont placés dans le foyer d'Ulven à Lausanne. Le foyer pour ceux qui sont au régime de l'aide d'urgence. On n'avait plus aucun argent et on recevait l'aide d'urgence en nature. Entre autres, quelques fois par semaine, on pouvait prendre de la nourriture en choisissant parmi celles proposées sur place. Je ne me plains pas, la nourriture était bonne, mais on était quand même limité dans notre choix. Et c'est là-bas que presque 6 mois durant, on a commencé à subir la pression du service de la population, le SPOP, et des menaces d'être expulsés en Pologne avec intervention de la police.
Ouf. Et est-ce que vous avez pu résister à tout cela ?
Ah oui, on n'avait pas de choix. On ne pouvait pas aller en Pologne, où l'attitude envers les requérants d'asile est connue, et ce, sans prendre même en considération l'aspect historique des relations entre l'Ukraine et la Pologne, qui était compliqué. Même si moi, personnellement, je n'ai rien contre les Polonais, bien au contraire. Tu sais, Omar, quand on allait au SPO pour renouveler notre papier blanc, ils nous disaient là-bas, pensez aux enfants, imaginez leur choc si un jour la police vient vous chercher à l'aube, elle pourrait casser la porte, etc. Moi, c'est ce que j'ai compris avec mon français de l'époque. Et je lui répondais en italien, ce n'est pas nécessaire, il suffit d'abord de toquer. Et si je suis dans la chambre, je l'ouvrirai volontiers et je leur offrirai du café. Bref, mon sens de l'humour, c'est tout ce que j'avais pour tenir le coup.
Très bien. Et pourquoi leur avoir répondu en italien, Valérie ?
Oui, parce qu'au début, je ne parlais ni français, ni allemand, ni schwitzerdeutsch, ni anglais, ni romanche. Donc, je devais me débrouiller en italien. Unique langue plus ou moins compréhensible ici de toutes les autres langues que je maîtrisais à cette époque-là. Ils m'ont même demandé où j'avais appris l'italien. Et après avoir entendu ma réponse en Ukraine, ils étaient surpris. Ils ne m'ont visiblement pas cru. Mais c'était vrai. J'ai travaillé pendant 10 ans comme représentant commercial d'une société italienne en Ukraine. Et ensuite, 5 ans comme traducteur et interprète en italien et polonais.
Waouh ! Valérie, je vois que tu as vraiment de la facilité avec les langues. Mais donc, si je comprends bien, vous avez attendu la fin de la période Dublin et ça a duré combien de temps en fait ?
Oh, environ 6 mois.
Et donc, après, vous avez pu demander à la Confédération la réouverture de votre procédure d'asile ?
Oui, Omar. Les autorités sont finalement entrées en matière. Nous avons donc reçu à nouveau nos permis N et ensuite un logement individuel sur les hauts de Lausanne. Les enfants allaient dans une classe d'accueil à Lausanne et nous avons pu reprendre les cours de français au centre de formation de l'EVAM.
Très bien. Et est-ce qu'à ce moment-là, votre vie a commencé à s'arranger ?
Oui, la vie s'arrangeait, mais hélas, pas pour longtemps. La décision négative du SEM n'a pas tardé. Ils n'ont pas pris en considération nos arguments. Donc, nos permis N nous ont à nouveau été retirés et notre logement individuel aussi. Nous nous sommes retrouvés une fois de plus à l'aide d'urgence et nous avons été placés au foyer EVAM de l'ESA. J'ai également dû quitter le programme d'occupation auxiliaire pédagogique parce que, étant depuis moins de 3 ans en Suisse, je ne pouvais pas le poursuivre étant tombé à l'aide d'urgence.
Ok, Valérie. Tu te retrouves donc à l'ESIN et qu'est-ce qui se passe dans ta vie à partir de ce moment-là ?
Écoute, Omar, quand je suis arrivé à l'ESIN, c'était à couper le souffle. Les montagnes, l'altitude, la vue, l'air, la fraîcheur, les renards, les chamois, les faucons, les brebis et les vaches avec des cloches autour du cou. C'était impressionnant. Et puis à l'ESIN, les enfants ont repris l'école. C'était d'ailleurs notre 5e déménagement en Suisse. Quant à moi, j'ai dû attendre la 3e année de mon séjour pour retourner au programme d'activité, notamment auxiliaire pédagogique. Donc, entre-temps, je me suis plongé dans d'autres activités. J'ai participé quelques semaines à la chorale locale, mais j'ai vite compris que ce n'était pas mon truc. Puis j'ai abandonné pour m'inscrire au théâtre du Poche, où j'avais déjà joué dans 2 pièces.
Ah, très intéressant le théâtre, j'en ai aussi un peu pratiqué. Et qu'est-ce que le théâtre t'a apporté durant toute cette période, Valérie ?
Le théâtre m'a apporté beaucoup de choses. Premièrement, ma participation au théâtre a contribué de façon substantielle à mon intégration dans la société suisse en général et dans la vie sociale de l'ESIN en particulier. Deuxièmement, le réseau de mes connaissances s'est élargi. Troisièmement, mon vocabulaire s'est enrichi. Quatrièmement, faire du théâtre augmente également la confiance en soi. Enfin, se produire sur scène en français et être compris par tout le monde est une grande satisfaction et un plaisir.
Donc Valérie, toi et ta famille, vous avez fait des efforts, vraiment des efforts pour vous intégrer dans le village de l'ESIN.
Oui, on a fait tout notre possible pour nous intégrer. Le théâtre pour moi et mes enfants. Le cercle de danse pour ma fille et sa mère. le cercle d'art martial Yosekan Budo pour mon fils, etc.
Et donc maintenant, qu'est-ce que tu penses faire?
Ben, maintenant, je fais le programme d'activité dans notre journal en ligne, Voix d'exil. Je vis toujours dans le foyer Evam de Lezin. Au début du mois d'avril, j'ai déposé au service de la population une autre demande de régularisation prévue par l'article 14 de la loi sur l'asile. Et j'attends leur décision. Ça fait donc plus de 6 ans que je me bats et la fin ne se dessine pas encore.
Oui, je comprends Valérie, mais comment est-ce que tu te sens après toutes ces années de lutte et sans voir toujours le bout du tunnel?
Écoute Omar, j'avoue que c'est dur, mais j'essaie de tenir le coup quoi. Je n'ai pas le droit de me dégonfler, pas maintenant. Surtout après tant d'années passées en Suisse et tellement de sacrifices. Ah non, non, jamais.
Valérie, tu es vraiment une personne très courageuse et très déterminée, et j'espère que tu ne perdras jamais ton sens de l'humour non plus.
Je l'espère.
Bon, merci Valérie pour cette interview. Je te souhaite bonne continuation et bon courage pour la suite.
Merci à toi Omar. Au revoir.
Au revoir Valérie. Vous pouvez retrouver ce sujet sur Voix d'exil, le média destiné à l'expression libre des personnes migrantes, sur www.voixdexil.ch.